Nous l'avons bien entendu, et nous ne cesserons de le répéter tout au long de cette célébration. Le Christ est roi. Le Christ est roi, mais le roi est nu. C'est une expression qu'on entend souvent, généralement en politique. Elle vient pourtant d'un conte pour enfants, un conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Dans ce conte, le roi est victime de la friponnerie de deux comiques qui font croire à ce bon empereur qu'ils peuvent faire un habit plus beau encore que cette toile à rideaux, un habit que seuls les niais et les imbéciles ne verront pas. Alors du coup, tout le monde s'extasie devant le vide, à regarder rien. Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien. Sinon, il aurait passé pour un imbécile. Le roi lui-même, dans sa vanité, ne voit rien, mais ne dit rien non plus. Et il se retrouve à défiler dans le plus simple appareil. Seul un enfant, une voix de l'innocence, brise le mur du silence et de la vanité pour dire « mais il est tout nu ». Et la foule, du coup, d'ouvrir les yeux et de reprendre « le roi est nu ». Notre maître le Christ, nous le voyons bien sur la croix, est nu. Difficile de croire que c'est à lui que le Père éternel a remis tout pouvoir et domination sur le monde et sur l'univers. Il est nu et ça se voit. Et pourtant il n'a pas la naïveté ni la vanité, encore moins, de cet empereur. Et l'histoire ne s'arrête pas là d'ailleurs. Car le Christ est tête de l'Église et quand on regarde bien, on pourrait dire aussi que le Christ, notre roi, comme tête de l'Église, est encore aussi bien nu. Nous pouvons faire des célébrations en récupérant toutes les solennités des cultes antiques, des cérémonies impériales. Vous pouvez me mettre la plus belle toile à rideaux sur le cousu d'or et de fil sur les épaules. Ça ne fait pas illusion jusqu'au bout. L'Église a quelque chose d'une grande nudité, d'une grande impuissance face au monde. Cette fête du Christ roi a pourtant été instituée il y a 100 ans, tout juste, par le pape bienheureux Pie XI, pour justement annoncer d'abord au peuple qu'on évangélisait, qu'ils acquéraient, qu'ils avaient non seulement un Dieu, mais un roi pour leur monde, qui voulait aussi contrer les régimes athées, qui expulsaient le Seigneur et donc le roi de leur territoire, et pour rappeler aux sociétés sécularisées, dont la sécularisation avançait bon an, mal an, en dormant, que le Christ avait des droits inaliénables. Inaliénables sur les individus, les familles, les sociétés et les États. Il ne faut pas se cacher que le bienheureux pape Pie XI souffrait aussi un petit peu d'avoir perdu lui-même, alors ses prédécesseurs plutôt, il y a 50 ans auparavant, en 1870, d'avoir perdu leurs États. Le pape avait de grands états qui traversaient toute l'Italie. Et le roi d'Italie lui avait pris. Il était lui-même bien nu, bien impuissant politiquement, d'une certaine manière. Alors, dans le texte qu'il écrit, justement pour instituer cette fête du Christ roi, il se prend à rêver, à espérer, à souhaiter. Qui dira le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, États, se laissaient gouverner par le Christ ? Le pape était bien nu, mais il espérait, fermement, attaché à la parole du Seigneur et à ses promesses. 100 ans après, aujourd'hui donc, force est de constater que l'institution d'une fête du Christ roi, qu'un enseignement de l'Église n'a pas empêché la sécularisation d'avancer, et que l'Église n'a jamais paru aussi nue, aussi peu puissante dans les sociétés, qu'elle n'a pas même pas pris une forme de pouvoir sur les pays évangélisés. Le Christ est présent, mais il semble toujours nu. Comment alors restaurer ses droits? Comment lui donner la pleine place qu'il peut avoir de manière à pouvoir concourir au bien et au bonheur des sociétés, à ce bonheur que nous pouvons viser? Nous pouvons rêver toujours avec le bienheureux Pie IX et avoir cet horizon qui puisse construire le bonheur de chrétiens et de ceux qui ne le connaissent pas encore. Comment restaurer les droits du Christ? En sacrant un roi? En faisant de la politique confessionnelle? Et en même temps, on voit bien que ces solutions ont existé pendant de longues années. Ont-elles finalement si bien marché, puisque nous en sommes là? Force est de constater aussi dans l'Évangile que quand on apporte la couronne au Christ, le Christ ne la veut pas. Comment alors le Christ instaure son royaume dans l'Évangile? Ce qui fait grandir le royaume de Dieu, c'est d'abord sa prédication, son annonce, sa vie et sa parole. C'est sa parole pleine de sagesse, dispensatrice de la sagesse et restauratrice aussi de la raison. Parole détentrice d'une puissance si forte qu'elle peut guérir les malades et ressusciter les morts. Ça n'a l'air de rien, mais c'est l'essentiel de la manière dont le Christ a instauré justement son royaume. Il passe par cette parole. Saint Paul, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, a bien saisi du coup que quand les gens s'éloignent de Dieu, ils perdent le sens, ils tombent dans la folie. Ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. On devient fou et la raison est humiliée par le péché et part loin de tout. La restauration des droits du Christ passe donc par tout un travail de l'intelligence notamment. De l'intelligence qui doit travailler pour discerner et chasser ce que les passions ont troublé. Parce que justement, quand elles s'installent, elles mettent le bazar y compris dans nos raisonnements. D'où le fait que quand on a une belle idée, il faut savoir la critiquer un peu, la questionner, la mettre en confrontation avec ceux qui ne sont pas d'accord, de manière à la purifier, à chercher la vérité de douceur. Faire tout un travail de l'intelligence. Le Christ y a travaillé et il nous a transmis cette parole. Je ne parlerai pas si je n'avais pas derrière moi le Christ qui m'avait inspiré par l'Écriture et qui me poussait à parler en me confrontant à cette parole reçue par lui. Savoir redresser la raison, chasser le trouble des passions, passions du lucre ou du stupre, passions de l'orgueil ou de la vanité qui viennent troubler tous nos raisonnements, je dois résolument, régulièrement, recevoir cette parole confiée à l'Église. L'Église qui, du coup, à travers les siècles, ne cesse d'approfondir, justement, par ce travail de l'intelligence, parce que nous a légué saint Thomas d'Aquin, que nous essayons d'entretenir tout en questionnant toutes les choses qu'il peut avoir transmises pour les avancer, les donner aussi à la mesure de ce que chacun peut recevoir, faire avancer ce travail de l'intelligence. L'Église a ce rôle, du coup, d'enseignement, d'une part, avec la grâce d'une certaine forme d'obéissance, quand on parle de royauté, on est obligé au bout d'un moment de parler d'obéissance, que elles me transmettent une parole du Christ que j'ai envie d'entendre ou que je n'ai pas envie d'entendre, que j'ai envie de dire ou que je n'ai pas envie de dire, les deux se confrontant parfois, le Christ et la vérité s'imposant parfois et imposant un certain sacrifice avec ce que mon affectivité m'a fait aimer. Entendre cette parole, la laisser s'imposer, grandir, faire confiance que le Seigneur l'a léguée à l'Église, oui. Et cet autre travail qu'elle fait du dialogue, justement, de savoir avancer raisonnablement, de pouvoir du coup dialoguer avec le monde et avec tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, en sachant que quand Dieu parle, sa sagesse est profondément raisonnable, qu'elle convient et qu'elle honore au plus haut point notre raison. Oh certes, c'est tout un travail, et notamment d'humilité, car l'orgueil de la raison qui a donné le rationalisme, que le bienheureux Pie XI connaissait bien, peut aussi égarer. Donc ce travail de l'intelligence doit être nourri par ces vertus d'humilité, aussi de délicatesse, de patience, pour revenir régulièrement. La parole de vérité travaille les cœurs, construit le royaume. Elle jaillit du cœur du Christ. Elle jaillit sur la croix même. Elle jaillit quand bien même le bras du Christ est bloqué, immobilisé, cloué sur la croix. Alors même que le Christ paraît profondément impuissant, sa parole demeure dans sa toute puissance, capable de tirer le larron et l'humanité avec. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Le roi est nu. Mais à la différence du comte d'Andersen, où notre empereur perdait son autorité par son ridicule, le Christ est bien moqué. 4 fois on lui rappelle qu'il est roi, non sans ironie. Il est moqué, mais il n'est pas ridicule et ne perd rien de son autorité. Au contraire, la vérité de son autorité se manifeste toujours sur la croix. Et l'on peut contempler alors le bon larron, cette foi immense qu'il a pu avoir, car toutes les apparences sont contraires. Vraiment, tout est en train de lui dire l'inverse de ce qu'il a pu entendre, croire, connaître du Christ dans sa prédication, puisqu'il se retrouve à côté de lui, condamné. Mais il garde la foi, avec cette grande humilité qui lui fait reconnaître ses fautes. Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, dit-il, et nous avec. Mais au sommet de son épreuve, il est capable de croire encore que celui qui partage son épreuve là est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est capable de se tourner vers lui, de s'appuyer sur la parole très profonde qui sort et jaillit de ce cœur brûlant, et de lui dire, de confesser sa foi envers et contre tout, contre toute espérance presque, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. »